Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Ce soir que nous fassions une lecture dans le livre de Josué. Livre de Josué au chapitre 9. Et j'aimerais introduire tout simplement ce passage à travers un simple petit mot. Et nous allons ensuite découvrir sa signification à travers tout ce qui nous est laissé à notre compréhension dans ce livre de Josué, je le rappelle, chapitre 9, et je voudrais simplement lire le verset 14, où nous avons devant les yeux « Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel », ce qui nous intéresse et ce qui fera l'objet de notre pensée ce soir, c'est ce défaut de demander à Dieu quelle est sa volonté. Alors, on sait très bien que de ce que Jésus nous enseigne dans le Sermon sur la montagne, et entre autres le Notre Père, « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », ça nous le connaissons, mais il y a véritablement quelque chose de très important dans nos vies, autant pour les chrétiens eux-mêmes, avec peut-être des années de marche avec le Seigneur, où nous pouvons oublier de demander à Dieu ce qu'il en pense, dans certains projets, dans certaines décisions que nous prenons et dans lesquelles nous souhaitons nous engager, et peut-être pour ceux qui commencent à se familiariser avec l'Écriture sainte, de ne jamais oublier de demander à Dieu, malgré peut-être les bonnes pensées, les bons désirs, les bons projets, malgré tout ce qui peut finalement nous sembler être agréable et favorable, eh bien, nous sommes exhortés à demander quand même, eh bien, quelle est la volonté de Dieu, ce qui sera la meilleure pour nous, ce qui sera la meilleure, parce qu'il y a le bien, il y a le bon et le meilleur. Et je crois que nous sommes des gens qui voulons quand même pas faire les choses à moitié, et dans un monde, et je voudrais quand même le dire en avant-propos, où rien n'est blanc et rien n'est tout noir, on serait plutôt dans la grisaille, c'est-à-dire dans le gris, eh bien, si nous pensons que nous sommes dans cette situation médiane, il serait bien de demander quelquefois, eh bien, au Seigneur, quel est le bon parti à prendre? Est-ce que dans le chemin dans lequel je m'engage, est-ce que véritablement c'est le bon? Est-ce que je ne vais pas dans une voie sans issue? Parce que les voies sans issue, ça nous amène à faire demi-tour et à recommencer tout. Vous comprenez? Vous savez ce que c'est, hein? Et c'est très fâcheux quand on a fait des kilomètres et des kilomètres et qu'on se trouve devant un obstacle, une barrière et qu'il faut recommencer tout parce qu'on a le sentiment, là on est frustré, on a le sentiment de, finalement, de s'être trompé et ça peut arriver à tout le monde naturellement. Mais j'aimerais quand même que nous mettions maintenant cette parole dans son contexte, hein. Et je vais vous raconter cette histoire dans le livre de Josué, parce que c'est bien Josué qui n'a pas consulté Dieu. Et il peut nous arriver parfois nous-mêmes d'être tellement sûr de notre fait, de dire « Pourquoi prier? Pourquoi demander à Dieu, puisque je sais déjà ce qu'il faut faire à l'avance ?» C'est quelquefois de la témérité, parce que si l'on connaît le principe de la foi, la foi, c'est vraiment faire confiance à Dieu complètement et totalement, en pensant que nous ne sommes pas toujours suffisamment sages, qu'il peut y avoir des pièges, qu'il peut y avoir toutes sortes de choses sur notre voie, notre chemin, dans lesquelles nous pouvons tomber dans des pièges, dans des obstacles, et qui fait que s'il y en a un qui connaît tout, c'est le Seigneur, et on peut peut-être lui demander naturellement. Alors, notre brave Josué, qui était quand même un prince d'Israël, dans un contexte particulier, parce que c'était le moment, cette période épique de l'histoire d'Israël où il faisait la conquête, après la sortie d'Égypte, eh bien, du pays de Canaan. C'est une histoire quand même assez étonnante. Et il y avait deux possibilités pour les Cananéens soit ils fuyaient devant les armées de Josué, et ils avaient la vie sauve, et ils laissaient leur terrain, tout simplement leur pays. C'était quelque chose, hein, c'était une invasion hein, d'Israël, hein, faut pas l'oublier. Et parce que Dieu avait donné cette terre à Israël depuis les temps immémoriaux, et il est arrivé un moment où Dieu a dit maintenant, eh bien, je vous donne ce pays, il est à vous. Ce pays qui était un pays où coule le lait et le miel, qui était réservé justement eh bien, à ceux qui avaient la foi en Dieu, donc Israël, les Hébreux. Les gens du pays de Canaan, c'était des gens qui avaient des mœurs assez étonnantes et cruelles, et Dieu voulait les chasser en raison de leur paganisme, en raison de leur idolâtrie, en raison de leurs abominations, puisque c'est le mot qui est employé dans la Bible. Et nous voyons qu'ils avaient le choix de fuir, ou alors s'ils restaient sur place, eh bien, ils allaient mourir, tout simplement. Alors, il y en avait qui après avaient pris le parti de fuir, d'autres qui voulaient résister vaillamment à Israël, ils passaient par l'épée, c'était terrible, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Et puis, il y a le cas de ces Gabaonites, ces gens qui habitaient cette région que l'on appelle Gabaon, donc leur nom Gabaonite, et eux, ils ont trouvé une technique tout à fait étonnante, en dehors de la fuite, en dehors de la résistance, et vous allez voir que c'est quelque chose d'assez étonnant, parce que ils vont être quelque part au sein du peuple d'Israël, en s'infiltrant dans le sein du peuple d'Israël, ils vont être des intrus. Alors c'est vrai que, qu'est-ce que ça peut vouloir dire des intrus? Hein, c'est comme un microbe, avec porteur d'une maladie contagieuse, comme on en parle aujourd'hui, qui va faire une œuvre en silence, et qui va eh bien, détruire, qui va essayer de neutraliser eh bien, la santé, quand il s'agit de l'expression que j'ai prise tout à l'heure. Et ces intrus, si je veux retenir le mot, eh bien, on pourrait les appeler les petits renards. Vous savez, comme c'est écrit dans le livre des Cantiques des Cantiques au chapitre 2, il nous est dit, mais ces petits renards qui ravagent nos vignes, vous connaissez, hein, pour ceux qui connaissent bien la Bible, c'est une histoire où, finalement, eh bien, ça ne se voit pas, c'est subtil, et puis quand on arrive après le passage de ces petits renards, il ne reste plus rien du tout. Tout a été détruit, tout a été dévasté. Ou alors, comme dans l'Évangile, il nous est parlé du semeur d'ivraie, qui vient la nuit, qui répand l'ivraie dans la bonne semence, et quand l'un et l'autre vont pousser, eh bien, ça va faire un champ qui va être inexploitable, naturellement. Alors, on va, si vous voulez bien, on va lire un petit peu, on va prendre dans le déroulé ce message. Moi, j'ai lu que le verset 15, où il nous est, le verset 14, où il nous est dit que Josué a fait une erreur, c'est qu'il n'a pas consulté Dieu. En dépit de tout ce qu'il pouvait connaître et de tout ce qu'il pouvait savoir des choses spirituelles, eh bien, il a passé outre. Alors, on va prendre le premier verset, par exemple. Il nous est dit que les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, c'était un chef de guerre, Josué, et il avait vaincu une forteresse colossale, une citadelle inexpugnable qui s'appelait Jéricho, sans combattre. Les murs se sont écroulés, et c'était en quelque sorte un bastion qui était un verrou, une serrure pour rentrer dans le pays de Canaan. Tout s'est écroulé. Haï, c'est une petite ville, mais qui est tombée également. Et nous voyons qu'il est dit derrière de ce texte, lorsque ces habitants de Gabaon, ces païens, ces cananéens, ils apprirent de la manière dont les choses avaient été faites par Josué, eh bien, il nous est dit qu'ils eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'ils ont usé d'une vieille ficelle vieille comme le monde, ou d'une ficelle vieille comme le monde, pardonnez-moi l'expression, ils ont utilisé la ruse. Ils eurent recours à la ruse. Ils n'ont pas fui, ils n'ont pas résisté, ils se sont dit, nous, on va être plus malins que les autres. Parce que vous savez, la ruse, c'est une intelligence. Les gens qui rusent sont des gens qui réfléchissent. Ils n'ont pas une attitude primaire, nous pourrions dire. Mais la ruse, c'est une intelligence dans le mal, pour tromper, pour tricher en quelque sorte. Et nous voyons que le mot ruse apparaît dans notre Bible, dans le livre de la Genèse, au chapitre 3. Dans cette histoire, il nous est dit que le serpent était l'animal le plus rusé de toute la terre. et on en connaît les conséquences. On sait ce que cette ruse a amené pour, tout simplement, renverser l'ordre créationnel que Dieu avait mis en place à travers Ève, ensuite Adam, et bouleverser le monde jusqu'à nos jours. La ruse. Ah oui, c'est quelque chose. Ils eurent recours à la ruse, nous dit simplement le texte, et ils se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes, et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient sur leurs pieds de vieux souliers raccommodés, et sur eux de vieux vêtements, et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. La chute des survies, parce que je crois qu'on ne peut pas donner d'autre nom à la stratégie qu'ils vont employer, ils l'ont imaginée pour donner l'illusion de leur malheur. C'est-à-dire qu'ils vont se présenter devant Josué, devant les chefs d'Israël, en disant, et nous allons voir la conversation qui est ensuite dévoilée, pour montrer combien ils étaient malheureux. Alors, ils se sont déguisés en quelque sorte. Et vous allez découvrir que, finalement, tout ce qu'ils racontent, c'est du mensonge, c'est une tricherie, c'est une... tout simplement, c'est comme on pourrait dire aujourd'hui. Ils essaient de gagner la confiance. Parce que c'est ça, la ruse. C'est essayer de gagner la confiance de quelqu'un qui peut-être avoir des doutes ou qui serait peut-être vigilant et prudent pour tout simplement l'endormir, pour l'amener dans une condition où il va s'apercevoir de rien. Vous savez, on vit dans un monde où il y a tellement de choses, c'est pour ça que je vous avais dit, c'est ni blanc ni noir dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, et je pense qu'il nous faut de la perspicacité. Il nous faut, nous, en tant que chrétiens, de la perspicacité, du discernement, mais il vous faut aussi, peut-être pour les amis qui découvraient l'Évangile, que nous sommes dans un monde qui n'est peut-être pas celui que vous avez pensé, que vous avez imaginé. C'est pas aussi simple que cela, parce que nous avons Dieu, il y a les hommes, avec leur turpitude, avec leur qualité naturellement, mais il y a aussi un adversaire, qui est l'image de l'intrus, qui est l'image de ces gabaonites qui viennent, et ils vont essayer d'attirer finalement la compassion ou la commisération, et quand ils sont partis de ces jeux, mais vous allez voir qu'ils ne venaient pas très loin, alors à ce moment-là, eh bien, ils se sont revêtus d'habits déchirés, de chaussures qui n'en pouvaient plus, qui étaient à l'expiration, de vieux vêtements, et ils avaient dans leur sac également du pain qui était tout moisi, rassis, sec et en miettes. Alors, sur ce fait-là, pour essayer de laisser une impression de leur malheur, il nous est simplement dit qu'ils allèrent auprès de Josué, au camp de Gilgal, et lui dire ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné, et maintenant, faites alliance avec nous. Alors, il y a deux choses qui sont importantes. C'est qu'ils vont se présenter dans cet accoutrement de vagabonds. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'ils vont mentir en disant « Nous venons d'un pays éloigné ». Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Et ils vont plaider devant Josué et les chefs d'Israël « Nous voulons faire alliance avec vous ». Vous vous souvenez, il y avait ceux qui fuyaient, il y avait ceux qui résistaient, qui... eh bien, donner leur vie, finalement, dans la résistance. Mais ils se sont dit, eh bien, nous allons ruser de telle manière que, si on peut, eh bien là, gagner la confiance d'Israël en les trompant, eh bien, peut-être qu'ils vont nous laisser la vie sauve. Voilà, c'était un compromis. Enfin, je dirais même plus que ça, c'est une compromission. Hein. Et appuyer sur le mensonge, c'est ce que ça appelle de la ruse. Faites alliance avec nous. Ils vont plaider, hein. Ils vont dire, mais nous sommes véritablement des gens qui viennent de loin, regardez un peu dans quel état nous sommes. Hein, vous voyez, faites-nous grâce et faites-nous miséricorde. Vous savez qu'il y a bien des gens qui jouent la comédie. Hein. Oh là là, non? Il y a des drôles de comédiens quand même. Hein. Il y a des gens qui savent faire. Hein. Vous savez comment on les appelle? Les escrocs. Dans tous les domaines. Ben oui, ils escroquent. C'est un abus de confiance. Hein, parce qu'ils ne montrent pas ce qu'ils sont. Ce sont des petits renards, vous savez, comme je vous ai parlé. Hein. Qui sont en train de grappiller, qui sont en train de détruire sans qu'on s'en aperçoive. Les informations, les médias nous rapportent des choses de plus en plus étonnantes. Hein. Alors, je ne vous parle pas avec Internet, parce que là, c'est quand même à haut niveau, à tel point que ça ne se chiffre pas par... c'est pas des petites escroqueries, c'est des choses monstrueuses et mondiales et internationales. Hein. Et quelquefois, on se dit, mais comment peuvent-ils penser à des choses comme ça? On est surpris, on se dit, mais c'est vrai qu'ils ont de l'intelligence. Mais alors, pour mal faire, pour tromper, et tout ça pour gagner de l'argent, hein, souvent c'est une escroquerie à ce niveau. Même les plus malins se font avoir. Hein. Alors, c'est comme ça. Et c'était un peu, vous voyez, l'histoire n'est pas nouvelle, hein, puisqu'on est en plein dedans, il y a des siècles, et bien longtemps de nous maintenant. Alors, on s'aperçoit que le verset 6 donc, nous dit qu'ils sont venus dans le camp et qu'ils ont plaidé donc, sur un mensonge et demandé une alliance. Et voilà que, par la suite, les hommes d'Israël et Jolie répondirent à ces Éviens, à ces Gabaonites, parce que c'était les races hein, de ces païens qui habitaient en Canaan. Et les hommes d'Israël ont eu un petit soupçon à un moment donné, et ils leur diront, mais peut-être que vous habitez au milieu de nous. Et comment ferions-nous alliance avec vous? Parce que Dieu avait été très ferme en disant, mais vous ne vous mélangerez pas avec les pays, avec les gens du pays. Ce sont des gens qui pratiquent l'occultisme, qui font à haut niveau de la magie, qui sacrifient par le feu leurs enfants. Imaginez-vous ce que ça pouvait être. Ça, c'était des choses abominables, hein, hein, pour avoir de bonnes récoltes, pour gagner à la guerre, pour que finalement les femmes soient fertiles. Eh bien, on sacrifiait un membre de la famille, on l'égorgeait, vous savez, sur un bûcher. C'est pour ça que c'est quelque chose d'assez étonnant. On se dit, mais il y a tant de cruauté dans la Bible. Mais c'est tout simplement le cœur mauvais des hommes. Hein, voilà, et la Bible nous dit la vérité sur ce que les hommes sont capables de faire. Aujourd'hui, ça se fera d'une autre manière, mais ça se fait quand même. Hein. On ne va pas mettre un enfant sur un bûcher, ça c'est sûr, ou une jeune fille. Mais une chose qui est certaine, vous savez, un queue de vie qui sont sacrifiés de mille et une manières. Hein. C'est pareil, hein, ça défraie la chronique tous les jours, ça aussi. Hein. Puis on est tellement habitué à ces fêtes que finalement on est choqué sur le moment et puis après on passe parce qu'il y en a tellement et on ne sait pas tout d'ailleurs. Et on ne sait pas tout, il vaut mieux ne mieux pas savoir toutes ces choses. Alors, ferions-nous alliance avec vous? Et ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, mais qui êtes-vous et d'où venez-vous? Alors c'est intéressant, parce que là, à un moment donné, après avoir déblatéré leurs mensonges et leur histoire, il y a quelques gens dans la compagnie de Josué qui va dire, mais c'est quand même bizarre leur histoire. Ils nous disent qu'ils viennent de loin, ils nous disent qu'ils sont profondément malheureux, qu'ils veulent s'allier avec nous pour que, eh bien peut-être, conquérir le pays, et voilà, toutes sortes de choses semblables. Alors il y en a qui ont des doutes, naturellement, sur leur... Mais ces doutes vont être vite balayés parce que, vous savez, un menteur, il a du recours, hein, et il a de la ressource. Et c'est ce qu'il nous est précisé après, parce que les choses s'en suivent. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Ils lui répondirent, mais tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, ça fait deux ou trois fois que nous l'entendons. Écoutez bien, sur le renom de l'Éternel ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, et tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens, et au-delà du Jourdain. Alors, je passe les noms, naturellement, tout cela. Il y a une chose qu'il faut faire attention, c'est au beau discours. Ce soir, je vous fais un beau discours, j'espère que vous allez me faire confiance. Un beau discours, vous vous rendez compte? Je vous raconte une histoire de la Bible. Hein? Mais il faut faire attention au beau discours. Parce que là, c'est quelque chose quand même qui a été cousu de fil blanc. Vous savez, ils avaient réfléchi, ces gens-là. Et ils avaient pensé qu'il ne fallait pas qu'il y ait de failles dans leur propos. Et pour s'adjoindre, pour gagner la confiance de Josué et du peuple d'Israël, ils vont se servir du nom de Dieu. C'est pour ça que la vigilance est nécessaire dans notre monde. Jésus en parlera dans le sermon sur la montagne, il dira, mais gardez-vous des faux prophètes, car ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Faites attention, ça existait du temps de Josué, on l'a, ça existait du temps de Jésus, mais ça existe encore d'autant plus dans notre temps, avec les relais médiatiques, avec tout ce qu'il peut y avoir autour de nous, parce que des gens qui savent faire des beaux discours, on appelle ça des bonimenteurs, hein, des gens qui ont le verbe, qui ont la parole, qui sont même capables d'user même des textes de la Bible, si vous voulez aller par là, même du nom de Jésus, d'une connaissance théologique, et toutes sortes de choses semblables, quelquefois, peuvent nous en mettre, comme on dit, plein la vue, pour eh bien, là, faire en sorte que nous ne voyons pas la supercherie, que nous ne voyons pas la stratégie qu'ils sont en train de mener. Et ils vont leur dire, mais nous venons de très loin, regarde l'état dans lequel on est, ça c'est la preuve. C'est pour ça que faut regarder à la vérité et pas aux apparences. Hein. Parce que la vie ne fait pas le moindre, ça vous le savez. Mais nous venons sur le renom de l'Éternel, ton Dieu, pour essayer de se mettre, comme on dit dans la poche, Josué. Mais attends, hein, nous on n'est pas comme les autres. Hein. On n'est pas de ces Cananéens que vous êtes en train de chasser du pays. Nous, nous sommes quand même mieux, parce qu'on croit en Dieu. Nous venons parce que nous croyons à ce Dieu qui est le vôtre, et ce Dieu qui a un renom extraordinaire, car nous avons entendu parler de lui. Oui, oui. Et tout ça, c'est dans les mobiles. Parce que nous pouvons avoir une attirance pour Dieu sur son nom, sur son renom, sur ce qu'il est capable de faire. Nous pouvons avoir entendu parler de lui, l'Évangile nous en parle, hein, dans certaines, je pense à la Cananéenne par exemple, cette fameuse Cananéenne dont on retrouve l'histoire, qui était venue pour sa fille, que Jésus a délivrée. Donc on peut mettre ça, mais ça dépend des mobiles. Pour cette femme Cananéenne de l'Évangile, elle avait de bons mobiles. C'était véritablement, eh bien, elle s'attendait à la grâce de Dieu et à la délivrance de sa fille à cause de Jésus et par Jésus. Mais là, c'est tout à fait trompé, hein. De tout ce qu'il a fait en Égypte, ah, c'est sûr qu'ils avaient entendu parler, parce qu'il y avait eu du remue-ménage en Égypte. La plus grande puissance du monde de l'époque, par terre, hein, à travers un peuple d'esclaves, par un peuple d'esclaves, par la puissance de Dieu qui faisait sortir son peuple esclave de la servitude du pays d'Égypte. La mer Rouge, ils avaient entendu parler de tout ça, et de la manière dont il a traité, finalement, eh bien, là, en cours de parcours, naturellement, eh bien, ces rois qui étaient de l'autre côté du Jourdain, etc., etc. C'est toute une histoire, tout ça. Alors, quand je dis attention au beau discours, voilà les Antiennes, c'est un exemple, et ils ne sont pas, et ne font pas la vérité. Vous savez, s'il y a une crédibilité que nous devons avoir, crédibilité, c'est ce que nous dit la Bible. Si nous voulons être chrétiens, si nous voulons vraiment faire des expériences de foi, si nous voulons marcher avec le Seigneur, si nous voulons vraiment l'aimer, lui obéir, vous savez, ce n'est pas tant ce que les hommes nous disent, à moins que ce soit des hommes qui sont dignes de confiance et qui sont appuyés sur la parole de Dieu. Et c'est à vous de vérifier. C'est à vous de vérifier cela. Vous savez, dans le livre des Actes des Apôtres, il nous est parlé des Béréens qui entendaient Paul prêcher. Et Paul, ce n'était pas n'importe qui, hein, le grand doctrinaire du Nouveau Testament. Eh bien, il nous est dit que ces hommes examinaient chaque jour les Écritures pour savoir ce que Paul leur disait était exact. Alors, vous entendez, ce soir, nous partageons cette réunion, mais si vous voulez vérifier en reprenant les textes, c'était ça, bien faites-le, parce que je veux, moi, m'attacher à vous raconter cette histoire comme elle doit être racontée. Et ce n'est pas pour vous tromper, c'est pour vous amener, justement, eh bien, à la foi, à faire confiance à Dieu. Et je pense qu'il y a une démarche de ma part, mais il y a une démarche de la vôtre, d'authentifier la vérité qui nous est donnée, et on sait très bien que, quelquefois, dans les discours, eh bien, ce n'est pas toujours la vérité. Hein. On le voit en politique, on le voit dans bien des choses. Et nous voyons qu'ils vont utiliser des arguments éhontés pour convaincre et désarmer la méfiance ou la défiance de Josué et de ses amis. Ah oui, ils nous parlent de Dieu. Bon, s'ils nous parlent de Dieu, c'est que ça doit venir de Dieu. C'est que ce sont des gens qui sont bien, etc., etc. On appelle ça de la crédulité. Vous voyez ? La crédulité, c'est de croire tout et n'importe quoi sans vérifier, en disant, bah oui, c'est comme ça. Et il y a beaucoup de gens dans notre monde, hein, et dans tous les domaines, que ce soit des affaires, que ce soit dans bien d'autres situations, mais particulièrement dans les questions, dans le fait religieux, les gens sont prêts à faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'il y a des sectes. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se font embarquer. Hein. Ils sont capables de tout gober. C'est le mot, hein, excusez-moi, hein, c'est pas péjoratif. Mais vous leur dites chose, hop, ils le croient sans vérifier, sans rien du tout. Mais nous devons être, nous, des gens qui avons cette scrupulosité de dire et de vérifier par l'Écriture si les choses sont exactes. Et Dieu nous montrera, et le Saint-Esprit nous confirmera naturellement. Ça, c'est une petite insertion que je fais au passage. La crédulité, c'est tout simplement de la naïveté, la candeur. Tout est beau, tout est merveilleux, le premier venu. Mais on se souvient de ce que Jésus nous a dit. Gardez-vous des faux prophètes, car ils viennent à vous, habillés comme un manteau de brebis, donc la douceur, l'humilité, la gentillesse, etc. Et Jésus nous prévient, attention, hein, derrière, il y a des loups, et des loups qui ont des dents, et qui sont là pour vous dévorer. qui sont là pour vous faire du mal. Il faut faire attention, et c'est important. Renom de l'Éternel, entendu parler de lui, ce qu'il a fait de manière, etc. Donc c'est la subtilité du piège, et on s'aperçoit que le soporifique ou le somnifère va fonctionner à merveille, figurez-vous. Parce que quand les gens commencent à être endormis, quand ils commencent à être ne plus sur leur garde, perdre leur vigilance ou leur discernement, ben c'est là où c'est gagné, en quelque sorte. Ce n'est pas d'être soupçonneux. Ce n'est pas de se méfier de tout, parce qu'il y a des gens, c'est le contraire. Ils sont tellement dans un état, c'est qu'ils ne font plus confiance à rien du tout, même à la vérité. Et ça devient aussi un autre problème. Mais là, dans le cas de Josué, ça va devenir grave. On va le voir, on va le découvrir par la suite. Alors, si nous continuons donc dans notre lecture, nous voyons que qui êtes-vous, d'où venez-vous, tes serviteurs, on l'a dit, tout simplement. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux, donc les Israélites, devant les Israélites, et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs et maintenant faites alliance avec nous. Ils insistent, la chose qui les motive à travers leurs mensonges, leurs ruses et leurs tromperies, leurs tricheries, c'est tout simplement de faire alliance avec Israël. Voici notre pain, il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons. Le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est sec et en miettes. Ces outres à bain jolis, que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirés, nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Et on a envie de dire, non mais, il y a quelque chose qui ne va pas là. Vous allez voir, parce qu'ils étaient quelque part à quelques kilomètres, finalement, les uns des autres. Ils sont en train d'enregistrer. Les excès. On a gonflé, finalement, ils ont gonflé la présentation, et nous l'avons lu tout à l'heure, les hommes d'Israël prirent de leurs provisions, chose qu'ils n'auraient pas dû faire. Ils ont vérifié, ils ont dit oui, pain et vin. Ils ont regardé la semaine des souliers, ils étaient toutes, ils étaient toutes abîmées, naturellement. Ils prirent de leurs provisions, et le drame, ils ne consultèrent pas l'Éternel. Josué et Israël étaient tellement sûrs. Ils étaient tellement convaincus qu'ils avaient affaire avec des gens qui leur disaient la vérité, alors que c'était un mensonge grossier et honteux, tout simplement. Et ils se sont dit, c'est pas la peine de demander à Dieu. Ça va bien comme ça. On a vu, on a compris, c'est bien. Et la suite va devenir dramatique, parce que lorsqu'on lit verset suivant, Josué fit la paix avec eux, et il conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée leur jurèrent. Trois jours après, écoutez bien, c'est intéressant, la conclusion, trois jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent, là, ils vont recouvrer la vue, qu'ils étaient leurs voisins, et qu'ils habitaient au milieu d'eux, car les enfants d'Israël partirent, et ils arrivèrent à leur ville le troisième jour, leur ville était Gabaon, Képhira, Béhéroth et Kirjat-Jéarim. Là, ils vont avoir... finalement, eh bien, le choc de leur vie. Parce que quand on s'aperçoit de ce qui va se passer, sans consulter à Dieu, sans demander à Dieu, parce que Dieu sait tout, mais sans faire cette élémentaire demande, Seigneur, qui sont ces hommes? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous savons que la loi nous interdit de faire une alliance avec eux. Nous savons qu'il y a des règles, que le peuple d'Israël, eh bien, ne se mélange pas avec les nations, de telle sorte que ces nations vont contaminer, vous savez. Je vous ai dit, livrer, jeter parmi la bonne semence, les petits renards, les infiltrés, les intrus, parce que c'est le mal qui va gagner sur le bien. Et il le savait, ça, Josué, mais il n'en a pas tenu compte. C'est terrible. Et vous savez, je crois que je voudrais le dire maintenant, au moment où, au stade de notre méditation, il y a beaucoup d'erreurs que nous pouvons commettre. Des erreurs qui ne sont pas forcément à main levée, mais des erreurs de négligence, des erreurs d'imprévoyance, des erreurs où quelque part, eh bien, nous pensons que nous sommes suffisants, que nous sommes assez forts, que nous avons tout compris. Un manque de sagesse, tout simplement. Et nous apercevons que nous nous retrouvons dans des sacrés pièges. Ça peut être dans tous les domaines de la vie. Des alliances d'affaires, par exemple. Où quelquefois, eh bien, les gens se sont liés et ils ont fait, les dindons de la farce. Financièrement, quelquefois, des gens ont été prévenus dans des alliances sentimentales, où on leur a dit, nous on a connu, On a dit quelquefois à des jeunes gens et des jeunes filles, attention, il y a un problème. Il y a peut-être un problème d'alcool. Il y a un problème de frivolité. Ou il y a un problème de mensonge. Il y a un problème de ceci ou de cela. Ça peut être toutes sortes de choses. Je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que c'est la vie. Mais les gens ont persévéré en disant, non. On a entendu quelquefois ces déclarations véhémentes, je l'aime, alors il n'y a pas de problème, puisque je l'aime, il n'y aura pas de problème. Wow. Ça, c'est une autre affaire. Hein. Parce que, je le dis toujours, être amoureux, c'est une chose, mais après vivre, c'est une autre affaire. C'est sûr que c'est une autre affaire. C'est dans l'expérience, c'est dans le quotidien. Hein, tout ça, ça se vérifie. Et quelquefois, on dit les parents, ce sont des ringards, ils connaissent rien. Bon, on connaît rien, ça c'est sûr. On ne peut rien connaître. Mais quelquefois, on prévient nos enfants, on leur dit, vous savez, moi, en tant que pasteur, quelquefois, j'ai prévenu hein, les jeunes. J'aurais dit, bon, voilà, c'est ton choix. Mais attention, on dit les choses. Non, c'est pas, ça va bien aller, etc. On a eu le cas. Hein, et souvent, ça capotait... très très rapidement, et puis après, bon, on a la personne qui ouvre les yeux, hein, elle apprend que, elle voit que les choses se révèlent au grand jour devant tout le monde. Alors on retourne chez papa et maman en disant, ben oui, vous aviez raison, mais c'est dommage, hein, c'est dommage, parce qu'il y a quelquefois des petits renards qui se glissent, il y a des intrus, il y a des choses qui ne sont pas vraies, des choses qui ne sont pas normales, des choses qui ne sont pas honnêtes, des choses qui n'ont pas été dites. Voilà. Alors c'est peut-être pour ça que monsieur le maire, l'officier d'état civil, il dit toujours « pour le meilleur et pour le pire ». Vous connaissez la formule? Alors, tout le monde dit oui, hein, parce que rarement j'ai vu dans un mariage quelqu'un dire non. Mais oui, mais après on ouvre les yeux. Alors ça peut être des alliances de différentes choses. Hein. Je vous ai cité effectivement dans les affaires, etc., etc. Mais vous savez, il y a quand même quelque chose d'important. C'est de consulter Dieu. Lui, c'est le présent. Il connaît le passé, il connaît le présent, mais il connaît aussi le devenir. Notre devenir, ça marche ou ça ne marche pas. Vous savez, j'aime bien cette citation du psaume quand il est dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Et ça, c'est vrai. Vous savez, quand on fait la volonté de Dieu, quand on a consulté le Seigneur, et que l'on part avec la paix, avec sans aucun doute, que l'on part avec ce repos intérieur, ben on s'aperçoit que c'est un grand gage hein, de réussite. C'est quelque chose. Hein. Ah oui. Moi, j'ai eu des amis hein, très proches et qui n'étaient pas forcément tout jeunes. On sentait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui ne marchait pas. Et on leur a dit, etc. Mais bon, c'était comme ça, etc. Puis on s'aperçoit qu'avec le temps, avec les années, ben, ils ne sont plus ensemble, c'est tout. Ça nous fait beaucoup de peine. C'est vrai que ça nous fait beaucoup de peine. S'ils avaient su écouter et entendre, mais bon, on n'est pas à leur place, hein, et on ne juge pas non plus. Mais, oui, ne soyons pas comme les Gabaonites, hein, vous savez, ne faisons pas alliance avec les Gabaonites. C'est pour ça qu'ils voulaient absolument, eh bien là, une alliance avec Israël. Alors, à travers ce que nous apercevons, on peut dire que le poteau rose est dévoilé. Hein, à travers l'expression toute assez triviale, il faut bien reconnaître, quand il nous est dit qu'ils ont donc appris, 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent. Il aurait mieux fait qu'ils puissent se tenir devant Dieu et Dieu leur aurait appris avant de faire l'alliance et avant de conclure ce mauvais marché, cette mauvaise... d'avoir cette conclusion. Ils apprirent qu'il était leur voisin, il venait de quelques kilomètres à côté. Ils se sont fait rouler, comme on dit, rouler dans la farine. Ils se sont fait avoir en beauté. Donc j'en ai des expressions ce soir. Hein. Je suis en train de les multiplier, je m'étonne moi-même. Eh oui, mais vous savez, si on a ces expressions dans notre langage, c'est que c'est des choses fréquentes. Hein. Faut être toujours sur nos gardes, sans être des malades et des traumatisés de la méfiance. Mais quand même, nous chrétiens, faisons attention. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se sont fait avoir, qui se sont fait tromper, en pensant mordicus que c'était ça, alors que ce n'était pas ça. Parce qu'on n'a pas toujours mis le Seigneur en premier. On n'a pas toujours demandé l'avis de Dieu, surtout dans les grandes décisions. Alors, n'allez pas tomber dans l'excès, messieurs, quand vous allez chercher une cravate, et de prier devant le présentoir de cravate en disant « Seigneur, quelle couleur je dois prendre ?» Parce que là, vous n'en sortez pas. Hein. Je peux vous dire que si vous changez de cravate tous les jours, votre sujet de prière, ça sera véritablement un calvaire. Non. Non, mais il y a des choses qui sont importantes dans notre vie. Quand on met Dieu dans cette affaire, il nous est dit que nous ne serons jamais déçus, ni confus. Alors voilà, tout simplement, et les conséquences ont été amères, parce que nous allons découvrir, parce qu'ils ont fait une fausse paix, et ils ont fait une mauvaise alliance. Ouais, ils ont fait la paix, l'alliance, tout ça c'est mauvais. Des intrus infiltrés chez eux, au milieu d'eux, à côté d'eux. Ils avaient maintenant, Israël avait les mains liées, parce qu'ils avaient fait un serment, en disant que, eh bien, il leur promettait la vie sauve. Bon, c'est vrai que c'est quelque chose de terrible, cette histoire. Mais ils ont promis, ils se sont mis en concertation, Josué et puis tous ses chefs, en disant, on ne les touchera pas, parce que devant Dieu, ils avaient dit qu'ils ne les toucheraient pas. Et quand un homme, et en Israël, quand on faisait un serment, eh bien, on le tenait. Et Jésus reprendra et dira, mais que votre oui soit oui, ou votre non soit non, parce qu'autrement, on devient parjure. Vous savez ce que ça veut dire, parjure? Alors, ils ont été ligotés par un serment précipité, parce qu'ils avaient juré par l'Éternel. Il faut faire attention à tout ça. Je sais que dans le monde, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur sont capables de dire oui, puis demain ils diront non. Ils vont se dédire, ils vont défaire ce qu'ils ont fait. Mais ça, c'est quelque chose, c'est vrai, je dis, c'est pour ça que dans notre monde, il n'y a plus de confiance aujourd'hui. Et lorsque nous devons signer des contrats et des traités, vous en avez épais comme ça, vous comprenez, avec des signatures, des contre-signatures, et puis des signatures qui n'en finissent plus. Ça n'empêche pas finalement les choses quelquefois de capoter quand même, mais bon, on est dans cette société. Alors, et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons plus les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie, certes, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront, leur dit les chefs, mais ils seront employés à couper du bois et à puiser de l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs leur avaient dit. Josué les fit appeler et leur parla ainsi, « Pourquoi nous avez-vous trompés ?» Mais ça, c'était la question qu'il fallait poser avant, et pas après, naturellement, c'était trop tard. Verset 23, « Maintenant, Josué va leur dire, « Vous êtes maudits, vous ne cesserez point d'être dans la servitude. » Et moi, je crois que quelquefois, à travers des mauvaises alliances, des choses précipitées, nous n'avons pas demandé à Dieu, j'irai pas jusqu'à dire, parler de malédiction, mais en tous les cas, un fait est, c'est que souvent, il y a beaucoup d'hommes, de femmes, des chrétiens même, qui sont réduits à la servitude. Ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas libres, parce qu'ils sont entravés dans leur cœur, sentimentalement, ils sont entravés dans leur raisonnement, ils sont entravés dans leur vie. Ça devient difficile de vivre comme ça. Et puis maintenant, hein, comme on dit, quand le vin est tiré, il faut le boire. Hein, et il faut aller au bout. C'est terrible. Et c'est bien cette histoire qui nous est racontée. La parole donnée, parole tenue naturellement. Et quelquefois, quand on parle de vin tiré, c'est du vin aigre. Hein. Vous savez comment on l'appelle le vin aigre? Ben, du vinaigre. Et ça, c'est acide. Hein. C'est difficile la vie. Hein. Quand on a pris quelque chose en soi, que ce soit d'une manière ou d'une autre, et qu'il y a toujours une amertume dans notre cœur. On peut dire, on peut regarder les autres en disant, mais ils sont libres, ils sont heureux, mais moi je suis peut-être à demi libre et à demi heureux. Parce que tout ça, j'ai fait défaut à un moment donné, je n'ai pas voulu demander à Dieu. J'ai pensé que j'étais suffisamment grand garçon ou grande fille, et puis maintenant, ben, c'est comme ça. Hein. La conclusion, elle est simple, c'est celle que je viens de vous dire, cette servitude amer pour Israël, et nous voyons que il y a quelques éléments sur lesquels je voudrais terminer maintenant. Tout simplement, les intrus de la foi. C'est sur cette pensée, on va terminer là-dessus. Les intrus de notre foi ou les intrus de notre vie spirituelle, les mésalliances qui peuvent être faites. La première chose, c'est la séduction par les sentiments. On l'a vu là. Ouais. Le Seigneur nous demande d'être tendre de cœur, mais ferme d'esprit. Ça veut dire quoi? Oui. Il n'est pas autrement que nous pouvons peut-être éprouver de la compassion. C'est vrai, de l'amour, puisque c'est tout l'évangile qui nous le dit. Mais attention que nos sentiments ne nous embarquent pas dans des aventures qui vont nous coûter très cher. Il y en a des exemples dans la vie. La deuxième chose, c'est l'emprisonnement par la faiblesse, notre propre faiblesse. Devant certaines choses, nous sommes capables de dire catégoriquement non, puis dans d'autres choses, nous nous sentons faibles, nous ne pouvons pas dire non. Et nous sommes prêts à tout. Et nous sommes tellement faibles que nous avons tombé à un moment donné. Parce que, c'est ce que je disais, tendre le cœur et ferme l'esprit. Et on a tous des faiblesses. Mais là encore, nous avons besoin de demander à Dieu que nos sentiments ne nous emportent pas à tout vent de toutes sortes de choses. Et nous avons besoin de demander que notre faiblesse ne nous emprisonne pas. Parce que là, devant certaines choses, eh bien, nous fondons. C'est terrible. La troisième chose, c'est que nous pouvons être subjugués par les apparences. Les apparences, c'était leurs vieux vêtements, c'était le pain là, qui était en miettes. Ils sont venus leur montrer devant tout simplement Josué en disant « Regarde notre misère !» alors que c'était du faux, que c'était tout simplement du mensonge. Eh bien, nous pouvons être subjugués tout simplement également par les apparences. Il ne faut pas regarder les apparences. Il faut aller plus loin que les apparences. Et là encore, nous pouvons demander à Dieu qu'il nous donne de pouvoir voir la vérité comme elle est. Et lui le sait, et il nous la donnera, parce que Dieu ne refuse pas d'exaucer ce genre de prière. Ensuite, nous pouvons être envoûtés par les belles paroles. Voilà, les beaux discours, toutes sortes de choses, et tomber dans le piège. Nous pouvons être abusés par la crédulité. À un moment donné, eh bien, nous pouvons finalement nous laisser aller à croire tout et n'importe quoi. Moi, j'ai vu des chrétiens partir dans des aventures complètement irrationnelles, à travers des doctrines, des faux prophètes, des gens qui avaient la tête à l'envers, et avec des histoires, mais à bras calabrant, des choses qui ne tenaient pas debout. Et pourtant, ils les croyaient. Et pourtant, ils ont couru. Ils ont fait des kilomètres et des centaines de kilomètres pour aller ici, pour aller là, parce que tel avait ceci, tel avait cela. Puis quand ils sont revenus, ils en étaient juste à la limite de perdre la foi, vous comprenez, ils avaient été complètement détruits, cassés à l'intérieur d'eux-mêmes. S'il y en a un que nous pouvons faire confiance, c'est Jésus et sa parole. On n'a pas besoin d'un homme pour ça. Et là encore, nous pouvons demander que Dieu nous donne du jugement, qu'il nous donne de la perspicacité, et de ne pas tomber dans la crédulité à toutes sortes de choses, parce que finalement, dans toute la présentation qui nous est faite, pour nous attirer, nous séduire et nous endormir, c'est parce qu'on parle de Dieu, mais ce n'est pas parce qu'on parle de Dieu que les gens parlent de Dieu qu'ils disent la vérité. Les occultistes parlent de Dieu, ils disent qu'ils ont reçu des dons de Dieu, etc. Et pourtant, c'est un horrible mensonge. Parce que ce n'est plus, finalement, la dimension de l'esprit, de la vie de l'esprit, du Saint-Esprit. Mais c'est l'exploitation de notre âme. Comme on l'a dit, la faiblesse, les apparences, la crédulité, toutes sortes de choses, les bonnes paroles qui frappent nos oreilles, et nous pouvons véritablement tomber. Alors, la moralité, s'il y en a une à cette histoire, je la tirerai de deux citations de La Fontaine. J'aime bien quand même, il a dit des choses, « Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. » Vous connaissez? Et puis il y en a encore un autre. « Tel est pris qui croyait prendre. » « Tel est pris qui croyait prendre. » Ça, c'est dans la fable du rat et de l'huître. Relisez-le, vous verrez, c'est très intéressant. Jésus nous prévient solennellement dans Jean, quand il nous dit justement de ces personnages. Il nous est parlé dans l'évangile de Jean au chapitre 10, je voudrais retrouver rapidement le texte. Alors, voilà. Parce que Jésus nous dit quand même ce que nous devons savoir et ce que nous devons retenir surtout. Ça c'est important. Écoutez, dans ses propos, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Ça c'était l'histoire des Gabaonites, de ces intrus. De tous ces petits renards qui rentrent, non pas par la porte principale, mais par toutes sortes de choses. Et au verset 5, il nous est dit que les vrais chrétiens, les brebis, dans cette parabole, ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voie des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprennent pas ce qu'il leur disait. Ah oui, si Josué avait eu un tant soit peu, un petit peu de réflexe, eh bien il n'aurait pas écouté la voix du mensonge, il ne serait pas tombé dans le piège. Alors, apprenons à reconnaître, s'il y a une leçon à tirer, apprenons à discerner la vérité, à consulter Dieu. Dieu ne doit pas être mis de côté dans toutes nos histoires de vie, mais au contraire, avoir la première place, en toutes circonstances et en toute décision, et nous-mêmes désirer à faire sa volonté. Et pour comprendre sa volonté et faire sa volonté, il faut la connaître. Mais nous ne la connaîtrons jamais si nous ne lui demandons pas. Dans des cas précis. Alors défions-nous des Gabaonites, de ces infiltrés, à travers qui vont exploiter notre raisonnement, notre cœur, nos sentiments, notre intelligence, notre volonté. Ils sont capables de faire beaucoup de dommages, à tel point que pour conclure l'histoire des... cette histoire que nous avons dans le livre de Josué, c'est que les Gabaonites ont conservé la vie, mais ils sont toujours restés dans le peuple d'Israël sans pouvoir, finalement, eh bien, s'en débarrasser. C'était des païens, c'était des gens qui avaient une vie de païens, une vie qui était mauvaise au milieu du peuple de Dieu et qui corrompait le peuple de Dieu. Ils les ont eu toujours. Ils ne pouvaient pas s'en débarrasser. Et quelquefois, vous savez, il faut faire attention. Et s'il y a encore eh bien, un mot à dire, demandons à Dieu qu'il nous conduise et qu'il nous dirige. Seigneur, montre-moi la meilleure voie. Montre-moi ce qui est bon. Moi, je ne le saurais pas. Je peux me tromper, parce que nous sommes en capacité de nous tromper, mais Dieu ne nous trompera jamais si nous lui demandons de faire sa volonté. Et ce qu'il sait, il nous le montrera, il nous le dira, et nous pourrons être rassurés de marcher, non pas devant lui, mais derrière lui. C'est-à-dire, c'est lui qui va nous ouvrir le chemin. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu nous donne sa grâce. Nous allons prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te remercier parce que c'est une histoire que nous avons devant nous. Et cette histoire, Seigneur, nous montre à l'évidence que si nous voulons vraiment faire ta volonté, si nous voulons t'aimer, te servir, si nous voulons être des hommes qui partons à la conquête pour le salut, pour, en effet, la rédemption des âmes, eh bien, nous devons marcher avec toi et marcher, Seigneur, de près, à tes côtés, Seigneur, en te suivant, parce que c'est toi qui ouvres la route. Nous avons l'exemple de Josué qui n'a pas consulté à temps, qui n'a pas pris la précaution de te demander ce que toi tu en pensais. Eh bien, Seigneur, nous avons vu les conséquences, c'est que c'était une mauvaise fée, c'était une mauvaise alliance, et que, quelque part, ces intrus qui sont passés par des moyens, qui sont parvenus à par des moyens qui étaient plus que douteux, eh bien, ont toujours été une épine dans la vie d'Israël. Il a toujours été des hommes et des femmes qui, quelque part, eh bien, ont porté atteinte au peuple d'Israël. Nous voulons te demander, Seigneur, que tu nous donnes d'être sages et intelligents, et que tu nous donnes de comprendre que si nous marchons par la foi, c'est que tu es le premier auquel nous avons à faire confiance, et toi qui sais tout, toi qui connais le présent, qui connais le passé, et qui connais aussi l'avenir, éclaire-nous, Seigneur, éclaire nos cœurs de cette sagesse et de cette intelligence qui n'est pas humaine mais qui vient d'en haut pour que nous puissions marcher, Seigneur, en paix et marcher, Seigneur, dans la sérénité. Merci, notre Dieu, merci, Seigneur, tu bénis cette parole ce soir pour ceux qui se posent des questions, ceux qui sont à la croisée des chemins, ceux qui sont dans les carrefours de décision, afin que tu leur montres, Père éternel, que s'ils t'associent, eh bien, ils ne seront pas perdants, mais ils gagneront toujours. Et nous t'en bénissons dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Voilà.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.